France Culture.
Putain, ça marche tellement bien ce truc, c'est ouf.
Wouh ! Oh, c'est incroyable les micros qu'on a à Radio France.
Peut-être on va lui téléphoner puis qu'on n'a pas de code.
Alors attends.
Allô ?
Oui, c'est Vivien et Marie de la radio et Greg. On est en bas et on n'a pas de code.
France Culture.
Et ensuite, il faut qu'on aille à quel étage ?
Le Book Club. Dans la bibliothèque d'Arthur Teboul.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va et vous ?
Ouais. Entrez, s'il vous plaît.
Merci.
C'est le bazar parce que j'ai envie de m'emménager.
Le bazar.
Non, j'ai derrière des cartons, il y a des trucs.
Marie Richeux.
C'est un signe quand même, quelqu'un qui vient juste de déménager et qui s'empresse d'organiser sa bibliothèque. D'abord cette pièce, d'abord en penser les couleurs ou les matières. Ça raconte quelque chose au-delà d'un goût manifeste pour la décoration d'intérieur. Lorsque nous rencontrons Arthur Teboul pendant l'été 2025, il en est là. Tout juste arrivé, quelques cartons visibles, des copains passés à l'improviste, un frère en guise de babysitter, un disque prêt à sortir et un méchant virus s'ajoutant à la fatigue des première date de concert. Je vous passe quelques aléas techniques et calendaires qui ne concernent que nous, mais il fallait vraiment faire s'aligner les étoiles pour ce coup-là. Les étoiles Arthur Teboul, qui écrit et chante dans le groupe Feu Chatterton depuis des années, en compte quelques-unes à ses rayonnages. À l'écouter parler de ses livres, on entend le lien fort qu'entretiennent les textes avec l'amitié, la recherche d'intensité et la route. Fellini, Brassens, Kerouac ou Apollinaire, allons voir ce que les livres nous réservent.
On y va ?
Yes, on va là-bas du coup.
Bah allez.
Ok.
Donc, on est où ? Il faut la décrire cette pièce.
D'accord, ok.
Quand même.
Ouais, je viens d'emménager, voilà, dans un nouvel appartement, depuis quelques semaines. Et dans l'appartement précédent, il n'y en avait pas de chambre. C'est dans le salon, machin. Et là, mon rêve, c'était d'avoir un bureau. Donc, on a transformé la cuisine en un bureau. Avec une bibliothèque énorme. Ça, c'est la première chose que j'ai remplie. J'ai fait ça avant qu'on emménage, ce qui était pas mal. Et voilà, c'est une pièce toute verte, verre d'eau, avec une moquette verre d'eau, des murs verre d'eau. C'est, ma...
c'est vous
c'est
qui avez choisi
plaisir,
ça
quoi. Ouais, c'est moi qui ai choisi ça, avec ma compagne qui est décoratrice d'intérieur. Donc forcément, on en profite.
Est-ce que la tapisserie des chaises précède le choix de la couleur ?
Non, pas du tout.
Ça a été fait pour ?
C'est le...
Ça a été chiné pour ?
Non, ça c'est un peu le hasard. En fait, ces chaises là,
parce que c'est quand même, on est d'accord que
c'est exactement
très raccord.
Voilà, la tapisserie des chaises, pour ceux qui nous entendent, est exactement de la même couleur que la moquette verre d'eau, qui est elle-même exactement de la même couleur que les murs. On est dans une pièce color block, comme on dit. Mais en fait, ces chaises là, une petite valeur sentimentale, c'est celle que j'avais dans mon cabinet de poésie à Paris, où j'ai reçu des gens pour leur écrire des poèmes en direct. Et c'est ma femme aussi qui a fait toute la décoration de cet endroit, parce que j'adore travailler avec elle. C'était important pour moi qu'il y ait une forme de décorum pour créer tout de suite un monde dans le monde. Et donc, j'ai passé du bon temps pendant une semaine pleine, 24 heures sur 24, peut-être dans cette pièce au mur bleu, avec ces chaises tapissées verre d'eau, là. Je les ai rapportées ici. Mais je n'avais pas du tout prévu... qu'elles finissent dans ce bureau, il se trouve qu'elles vont bien.
Ah bah oui.
Après, ce qui s'est passé d'un peu frustrant avec cette bibliothèque, c'est que la première fois, quand j'ai eu le temps de venir la remplir, je l'avais bien rangée comme j'aime. Et tout s'est effondré. Il y a une étagère littérature française, étagère poésie, littérature étrangère latino-américaine, anglo-saxonne et russe, théâtre, biographie, autobiographie, et philosophie, essai, tout ça.
Et comme j'aime, ça veut dire que ça a toujours, enfin que vous avez toujours classé vos bibliothèques comme ça.
Du jour où j'ai commencé à avoir des bouquins, un peu une bibliothèque, je me suis fait ce petit ordre. J'aime bien. Et par exemple, je sais qu'il y a des gens qui vont classer leurs livres en fonction des maisons d'édition, des collections. C'est peut-être joli parce que tout est uniforme en taille. Mais la bibliothèque, pour moi, qui ai une très mauvaise mémoire. C'est surtout un moyen de refaire des connexions entre les livres et de se rappeler des souvenirs, en fait, et parfois des idées. Et donc, les classer comme ça par collection, ça n'a pas de sens pour moi. Parfois, je rêve d'avoir encore plus de temps pour classer les choses à un sens plus plus profond encore.
Ouais.
J'avais, quand j'étais plus jeune, j'avais un petit coin comme ça avec la littérature d'Andy. Donc là, ça, c'était très mélangé, mais il y a Baudelaire à côté de Huysmans, à côté de Wilde, mm-hmm. à côté de Barbet d'Aurevilly, et voilà, des choses comme ça.
On la regarde d'un peu plus près.
D'accord.
Bon, la chose que je me dis aussi, c'est que vous venez d'emménager, certes, mais elle est pleine.
Elle est complètement pleine.
Donc, ce que je veux dire, c'est que sauf tout ouais. là-haut, ouais, pour l'instant, petit, il n'y a que Chris Marker et Hitchcock et toute une étagère en effet vide. Ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'acquisitions à Arthur Teboul.
Bah, en fait, c'est aussi ça qui me plaît dans une bibliothèque, c'est que ce n'est pas du tout un étalage de culture, parce qu'il y a au moins la moitié des livres, je pense, que je ne l'ai pas encore lu. Je vois la bibliothèque comme un truc, un potentiel. Mm. J'aime bien l'idée que ce n'est pas un truc, c'est pas comme des têtes d'animaux empaillés pour dire on a chassé telle chose. Il y a franchement très souvent, j'achète des bouquins en me disant celui-là je vais le lire. Puis j'oublie de lire celui-là et j'en lis un autre. Et donc là, il y a plein de livres que je n'ai pas encore lus. Parfois, ça me désespère un peu. Il ne faut plus que j'en achète.
Pourquoi ça vous désespère?
Bah, parce que ça, c'est la preuve du temps qui passe et du temps qui manque pour faire ce qu'on aime et prendre ce temps de la lecture. Et puis, le temps passant, l'époque dans laquelle on vit, je pense, cette vitesse qui nous emporte tous, me fait réaliser à quel point je manque de temps pour lire et j'en prends de moins en moins. Je me dis 6 mois, donc je suis censé être, avec mon métier, étant artiste, étant auteur, je trouve que je manque de temps pour relire. C'est inquiétant.
Ça veut dire quoi, prendre pas assez de temps? Ça veut dire que, par exemple, vous n'avez pas tous les jours rendez-vous avec un livre?
Pas tous les jours, non. Non, non.
Et il y a beaucoup de jours qui passent sans que vous lisiez?
Ouais. Après, j'ai des pics, j'ai des crises comme ça, des moments où tac, tac. Après, j'enchaîne, je dévore les bouquins. Mais oui, pas tous les jours, en ce moment, pas tous les jours. Ouais. Le dernier bouquin que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, c'est Le Charlatan de Isaac Bashevis Singer.
Il est où?
Alors ça, je sais pas. Peut-être qu'il est encore sur ma table de chevet, hein, je pense. Oh, il doit être là-bas. Il est pas là. C'est un romancier new-yorkais de culture yiddish,
oui,
qui a été prix Nobel. Et je sais pas si vous connaissez un peu la littérature d'Isaac Bashevis Singer.
Non.
Elle est très empreinte de la littérature yiddish, donc c'est une forme de conte, du récit assez fantastique. Et en même temps, qui entre en collision avec la littérature américaine des années 50. Truc récit très réaliste avec la modernité new-yorkaise. Et Le Charlatan a résonné pas mal parce que c'est l'histoire des migrants juifs qui se retrouvent pendant la Deuxième Guerre mondiale à avoir fui la Pologne, à New York, où ils se sentent protégés, mais du coup aussi coupables, ouais, d'avoir quitté l'Europe et de vivre une vie, pour certains, légère. Un moment où le monde bascule dans
l'horreur.
Puis il y a vraiment des personnages qui concrètement ont laissé leurs enfants là-bas, juste comme ça, dans les ghettos. Et la littérature de Singer, elle a toujours un aspect philosophique où les intrigues sont souvent des dilemmes moraux, des tensions morales. Mmh. Les personnages sont traversés d'énormes dilemmes moraux avec un rapport à Dieu très fort et à la morale, et en même temps aussi avec la sincérité de l'homme, de la faiblesse de l'homme. Ça, c'est beau, je trouve, quand une littérature morale, ou en tout cas qui parle de morale,
ne se sent pas obligé
non plus de masquer, de maquiller les tentations humaines. C'est pas une littérature moralisante, c'est une littérature qui est très humaine, parce qu'on voit cette tension vers le bien, mais on fait le mal, enfin, ou ce qu'on peut considérer être le mal. Et parfois on tombe, mais on est retombé. Et parfois, est-ce qu'on tombe vraiment? Peut-être qu'en fait, on est en train de s'élever. C'est intéressant, avec des personnages hauts en couleur qui se contredisent, mais qui s'aiment.
Comment vous avez trouvé ce livre-là, par exemple? Parce que tout à l'heure, vous avez dit, OK, parfois j'achète des textes et puis je ne les lis pas immédiatement. C'est comme un rendez-vous peut-être pour plus tard. Celui-ci, par exemple, qu'est-ce qui vous a fait le...
Celui-là, je crois qu'on m'a offert Le Magicien de Lublin. Et il était au milieu de ma bibliothèque et un jour je suis tombé dessus. J'ai envie de lire un conte, et j'ai adoré. Et en fait, là, j'ai juste piqué, pour être honnête, le livre de ma femme.
Voilà.
Comme je lui ai vendu, je lui ai parlé vraiment un temps émerveillé du Magicien de Lublin, elle s'est dit je vais acheter Le Charlatan.
Et
puis elle s'est retrouvée là, et comme elle s'endort très vite quand elle commence à lire, Eh ben, c'est moi qui l'ai lu. Voilà, hein, c'est joie de la vie conjugale.
Exactement.
Déjà, le nom Isaac Bashevis Singer.
Ouais.
Franchement, il y a quand même un truc un peu fou, c'est que tous les grands auteurs ont des noms qui claquent. Alors parfois, on se dit, est-ce que ça a joué théorie, est-ce, ça... que, voilà, est-ce que c'est leur œuvre et comment ils sont arrivés à nous qui nous ont fait aimer leur nom? Ou est-ce qu'en fait, il y avait quand même une formule magique dans leur nom, déjà une aura déjà dans le nom? Alors longtemps, je me suis posé cette question de vaniteux quand j'ai voulu devenir chanteur. Est-ce que je dois changer mon nom? Parce que Arthur Teboul, je trouvais que ça sonnait un peu comique. Ça sonnait, je trouvais pas que je me cherchais un patronyme. Et puis j'ai eu la bonne idée de garder le nom de mon père, parce que je trouvais ça plus respectueux. Et je trouvais pas d'autres noms valides. Et voilà, je me dis, ouais, y a des mecs là, on sait en fait que, je sais pas, René Char, c'est pas son nom. Enfin, Sandrard, c'est pas son nom. Enfin, ouais, ils se sont trouvés des noms quand même.
Bah, vous êtes allé aussi chercher Chatterton, c'est pas votre nom d'artiste, c'est un nom de projet.
Ça, c'est vrai, ouais.
Et vous avez aussi...
Un peu alambiqué. Parce qu'en français, Chatterton...
J'avais jamais pensé, c'est du scotch. Ouais.
Oui, déjà, mais en plus, prendre un nom anglo-saxon pour un groupe français, mais on avait 20 ans, on est bien les trucs alambiqués, romanesques à fond.
Et puis ça, ouais.
Poète suicidé.
Et puis ça tient.
Ça tient, ouais. Ça tient, ouais, ça tient pas mal.
Qu'est-ce qu'on peut dire alors? Vous n'avez pas parlé de ces grands livres qui sont plus des livres d'art. Vous en avez un usage particulier?
Je parlais de vie conjugale, je partage quand même cette bibliothèque un petit peu avec ma compagne. Donc les beaux livres sont surtout des livres de décoration, c'est son métier, sa passion. Mais il y a aussi là il y a par exemple un bouquin d'Apollinaire, enfin c'est des beaux livres quoi, des beaux livres parfois qui sont illustrés, qui sont inspirants, comme il y a le livre de mes rêves de Fellini, j'adore.
Quoi?
Bah Fellini c'est un grand rêveur, un très grand rêveur, et je l'envie beaucoup parce que je me souviens très rarement de mes rêves. Mais, en fait d'ailleurs j'ai découvert une chose assez tardivement, c'est comme je rêvais pas souvent, et c'était pas une conversation que j'avais beaucoup avec les gens, le fait de rêver.
Ouais.
Je pensais que c'était le cas chez tout le monde, que le rêve était un peu une chose rare, et quand on rêvait, c'était un événement de la nuit. Jusqu'à ce que je rencontre en particulier ma femme, qui se souvient vraiment de ses rêves, et qui me fait des rêves très précis, avec des décors, des couleurs, des textures extrêmement précises. Donc j'ai découvert assez tardivement que je rêvais peu.
Non, vous rêvez, vous en souvenez
pas. Ça m'a un poil attristé. Oui, je me souvenais pas. Ça m'a un peu attristé. Je me suis dit, cette vie intérieure. Après, je suis développé toute une théorie pour me tranquilliser en me disant, mais c'est peut-être pour ça, en fait, que je fais ce métier de chansonnier et de poète. C'est parce que comme je ne me souviens pas de mes rêves, eh ben, j'ai besoin d'un autre truchement, d'un autre biais pour les vivre. Et donc, ce bouquin, qui est un très, très grand bouquin de Fellini, il dessine bien aussi.
Oh, wow.
Et donc, il se souvient de tous ses rêves.
Oh là là.
Et des rêves dingues. Et là, c'est...
C'est des manuscrits, il faut dire, à nos auditeurs.
C'est des grands manuscrits scannés avec ses rêves.
Incroyable.
Et des beaux dessins. Hein.
Enfin,
je veux dire, assez technique, quoi.
Des
perspectives, des couleurs, ouais. Beaucoup de précision. Ça va être beau. Hein. Donc ça, et ça l'a beaucoup nourri pour ses films, en fait.
C'est une immense spaghetti qui va entre trois personnes, donc, dont un mec... particulièrement grand. Et là, c'est quelqu'un dont le crâne, c'est une sorte de gros tuyau ou un gros sexe qui part de sa tête.
Avec une
bonhomme
cape
vert,
rouge.
Avec une cape rouge.
Mais je crois qu'ils sont... Voilà, on les a quand même... Parce que ça, c'est pour faire joli, le manuscrit. Mais après, ils sont retranscrits, tapuscrits. Comme ça, on peut bien les lire. Par exemple, rêve du 19 décembre 75. Sur la petite place d'un village, un chien loup plutôt pelé se dirige vers la vitrine d'un magasin plongé dans l'obscurité. C'est déjà assez précis, quoi. Car il croit qu'à l'intérieur, il y a des chats. Je sais qu'au contraire, il y a un tigre. Et en ricanant, j'invite mes amis à profiter de la terreur du chien lorsqu'il s'apercevra de la situation. Donc le chien-loup arrive devant une vitrine en pensant qu'il va effrayer des chats. Sauf que dans la vitrine, il y a un tigre. Donc le chien-loup va être, lui, effrayé. Et ça, le narrateur, le rêveur le sait. De fait, dès que le chien s'approche de la vitrine, l'énorme félin sort de l'obscurité en bondissant et se précipite contre la petite bête ouvrant grand la gueule. Il semble presque que la totalité de la tête du chien disparaisse dans la gueule du tigre. Et c'est ce qui se serait vraiment passé si la vitrine n'avait pas séparé leur corps. Enfin, c'est un des rêves merveilleux quand même.
Ouais.
Il y a tellement de choses à dire, à analyser. C'est beau, ça ferait un film direct.
Ouais.
Le chien loup pousse des hurlements de terreur et s'enfuit en boitant. quel rêve. J'aimerais en faire au moins un comme ça dans ma vie.
C'est tout ce qu'on vous souhaite. Je sais, vraiment, je vais au hasard ce qui attire mon œil. Une vieille édition, semble-t-il, avec juste marqué Georges Brassens. Je peux enlever ?
Ouais, bien sûr. C'est marrant en plus, ça va faire plaisir à mon éditeur d'aujourd'hui.
Ah bah oui, Segers.
Ouais. Pierre Segers, un éditeur incroyable, qui a commencé à faire sa réputation d'éditeur pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il a édité les poètes casqués. Donc les poètes soldats, en fait. Parce que la poésie, en temps de guerre, elle compte. Parfois, on pense qu'elle est cosmétique, superficielle,
mais une posture. Tiens, on la retrouve dans le moment
même. Dans le moment où on manque de vivre, ouais. On manque de quoi manger et boire, et on se passe quand même des poèmes. Ça veut dire que ça doit quand même nous... Et ensuite, il a eu cette idée qui était incroyable, c'est de faire un format de poche de poésie. Et c'est un coup de génie, ça n'existait pas, le livre de poche, encore, à l'époque. Et... de se dire, la poésie, on l'a fait pour tous. C'est une parole contemporaine, c'est une parole qui parle de nous, qui parle d'aujourd'hui. C'est pas un truc d'élitiste, c'est pas un truc de savant, c'est pas un truc de niche. On va la mettre partout. Et après, il a eu cette idée aussi audacieuse, parce que dans le milieu de la poésie, ça se concevait pas du tout.
De publier les chansons.
De dire, voilà, comment ils appellent ça ? Chansonnier d'aujourd'hui, non ? Chanson d'aujourd'hui. Et je crois que c'est Ferré qui a été le premier à être édité dans cette collection chez Segers. Et là, je crois que c'est une édition originale, des premières.
C'est 63, ça.
En plus, à l'époque, il n'y avait pas encore Internet. Et donc, ça servait aussi de songbook pour tous ceux qui voulaient chanter les chansons et les jouer. Avoir un recueil avec toutes les paroles de Brassens, c'était l'occasion de les chanter. Et puis pour Segers, de dire que les trésors de la langue, il utilisait cette expression, sont multiples. Que la poésie, elle est dans plein de choses de la langue. Et elle n'est pas que dans la langue, d'ailleurs. Mais dans la langue, elle est dans plein de formes. Ouais, très audacieux, très inventif. Et pourquoi je dis que ça fait plaisir à mon éditeur ? Parce que là, vraiment, vous l'avez pris par hasard, on n'a rien prévu.
Ouais.
Mais il se trouve que là, Segers donc, relance la collection Chansons d'aujourd'hui.
Et vous allez
publier. Et voilà, les paroles de Feu Chatterton.
Promis juré. Ah,
non, on peut le dire, on peut le dire.
Promis juré. Que c'est pas prévu.
Donc je suis honoré d'être dans la collection de...
Mais pas que les paroles de Labyrinthe.
Toutes les paroles de Feu Chatterton depuis le début. Il y a à peu près 4 albums. Mais je vous dis quand même, ça fait un peu peur. Parce que bien que Segers trouve un peu cet argument des trésors de la langue, faut être honnête, la chanson n'est pas la littérature. Et donc un texte même de Georges Brassens couché sur le papier, donc amoindri de sa forme chantée, puisque la forme pleine...
Ouais.
De l'expression d'une chanson de Brassens, c'est une chanson.
Mm.
Et cette nudité nouvelle, parce que je dirais ce dénuement, rend le texte un peu...
moins solide.
Voilà. Donc, mais je suis hyper heureux de rejoindre cette collection. C'est un honneur immense. Mais je dois dire que je suis en train d'essayer de trouver quand même des arguments dans la préface pour me défendre un peu de cette nudité du texte. Pendant longtemps, quand j'étais plus jeune, pendant très longtemps, j'ai écrit avant de chanter. C'est par le texte que mes camarades du groupe que j'ai rentré au lycée, à qui je déclamais des textes en classe, on dit on monte un groupe. Donc je venais d'abord du pur texte. Et pendant très longtemps, je me suis dit, une bonne chanson, justement, il faut que le texte débarrassé de la musique tienne. S'il ne tient pas bien tout seul, c'est pas une bonne chanson. Et plus le temps a passé, et plus j'ai fait des chansons avec mes copains, et plus j'ai travaillé cette forme qui est différente de la forme écrite,
bien sûr.
Et plus je me suis rendu compte que je me trompais complètement. Et maintenant, je pense tout à fait le contraire. Si vous aimez une chanson, qu'elle vous émeut profondément, alors sa forme pleine, c'est sa forme avec sa mélodie. Si le texte, une fois couché sur le papier, vous déçoit, c'est la preuve
que vous aimez la chanson,
que c'est une bonne chanson et que c'est pas de la pure littérature. Et je dis ça. Donc je fais un peu une contorsion, ça. Enfin, je veux dire, comment je dis ça et comment je justifie le fait qu'après je publie mes textes dans Chanson d'aujourd'hui chez Segers.
En le disant. C'est le moment où on va choisir les extraits, non ? Moi, je fais ça ou pas ?
C'est quoi, c'est la petite pause ?
Ouais, c'est la petite pause, ouais.
J'ai le petit verre d'eau. que les gens d'ici pensent, s'il n'est pas partout la même heure, il y a peut-être une chance que l'herbe soit plus verte ailleurs. Souvent tu attends la nuit, quand plus rien ne fait mal, et tu rêves que tu t'enfuis à la nage par le canal. Tu rêves d'un grand pays, d'une vie qui enivre, comme celle que tu lis dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Prends-moi la main.
France Culture, le Book Club. Dans la bibliothèque d'Arthur Teboul. Marie Richeux.
Alors, par quoi on commence ?
Qu'est-ce que vous préférez ?
Je sais pas, c'est un peu l'idée. Je sais pas, qu'est-ce que vous vous êtes dit par rapport, en dehors du fait que, ah là là, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, France Culture me demande de choisir 5 extraits, ça va vraiment être dur. Mais vous vous êtes dit, vous avez procédé comment pour le choix ?
Pour le choix des livres ?
Ouais.
J'ai essayé de penser à des livres qui avaient vraiment...
compté.
Ouais, changé mon existence un peu, ouais.
Ok.
Donc, justement, c'est à ce moment-là où je suis pas venu dans la bibliothèque pour les regarder. Parce que je me suis dit, si c'est vraiment des livres qui ont tant compté, je dois m'en souvenir fort. Ouais. Et par ailleurs, je pense que la plupart, du coup, c'est quand même des livres que j'ai lus il y a assez longtemps, donc je me souviens assez mal. Mais à un âge de la vie où on se construit, enfin, c'est beaucoup des livres que j'ai lus, je pense, entre 18 et 25 ans, je pense. On se construit, on s'invente, on trouve un compagnonnage dans les auteurs, parce qu'ils sont des étrangers, intimes. C'est une grande chance de la littérature, c'est de pouvoir accéder à des mondes très lointains, de façon très intime. On est invité chez quelqu'un qui habite loin. Et donc il peut devenir un frère, il peut devenir un ami, il peut devenir un ennemi aussi. Mais c'est intéressant, hein, on peut avoir envie de le combattre. Toujours, en tout cas, si c'est un bon auteur, il parvient à nous faire partager sa vision du monde. En tout cas, un instant, qu'on l'aime ou pas, mais on change son regard sur le monde. Ça, c'est merveilleux.
Alors, une fois qu'on a dit ça...
Allons sur Jacques Kerouac, sur la route. Ouais. Tout à l'heure, par exemple, vous demandez comment je choisis les livres dans ma bibliothèque, mais avant, comment je choisis les livres à la librairie. Et ça, je me souviens très bien du jour où je l'ai trouvé, parce que j'étais au lycée, en classe de première. Et le prof d'histoire nous parlait beaucoup des beatniks et de Kerouac. C'était un nom qui était... On parlait des noms tout à l'heure. Mmh. C'est magique, Jack Kerouac, comme ça sonne. Hein. Et Kerouac, je ne savais même pas comment s'écrivait, et puis il le disait. Et j'étais dans un lycée dans le 5e. Moi, j'habitais dans le 20e. Il fallait que j'aille prendre un bus. Bref, je descends toute la rue des écoles. Et à l'époque, je pensais que toujours vers le bas de la rue des écoles, il y avait un libraire de livres plutôt anciens, comme ça, mais qui avait un étal. Devant la boutique,
un bac
avec des livres d'occasion, des poches. Ouais, j'adore fouiller là-dedans. Surtout pour trouver des trucs mystérieux, on comprend pas trop. On a déjà entendu des noms comme ça qui font partie du panthéon de la littérature. On sait pas trop ce que ça veut dire, on est attiré ou pas. Il y a un nom de livre. Et j'ai trouvé ce Jack Kerouac sur la route, je crois que c'est cette édition que j'ai là, tout abîmée. Et voilà, et là c'était magique tout de suite. J'aimais bien en plus cette couverture du poche avec une voiture peinte, une peinture comme ça de voiture avec des monolithes derrière.
Et puis en plus, je sais pas si c'est le résultat de votre trimballage, mais elle est toute ridée.
Ouais.
Comme si elle avait été...
Elle avait déjà une vie avant que je la découvre.
Ouais.
Et puis après, oui, franchement, livre de poche.
Poche.
Ah oui, attends, ça sert à quoi d'avoir un livre ? Non, je dis, on dit ça, je suis pas la pub. Non, mais c'est... Un livre, il faut pouvoir le prendre avec soi, il faut pas trop le respecter. C'est une parole vivante, on s'en fout un peu de la forme.
L'objet.
Moi, j'ai toujours aimé corner là. Mais enfin, c'est très bon signe de corner ces livres, oui. De les souligner. J'aime beaucoup la toute fin du bouquin, qui est généralement pas ce qui est choisi pour illustrer la teneur et la vivacité de Sur la route de Kerouac, parce que c'est un rythme très syncopé, avec une ivresse de la vitesse, un désir de transcendance, un élan d'aventure.
Et la fin,
c'est un adieu. C'est aussi, pourquoi ça m'a touché tant, c'est que c'est tout ce que je vous ai dit, mais c'est aussi surtout un grand livre sur l'amitié. Parce que Sal Paradise, qui est le narrateur, est admiratif et toujours à la poursuite, accompagne toujours son ami incandescent et radical qui s'appelle Dean Moriarty, qui est à la fois magnétique, charismatique, fougueux, fou, mais du coup aussi égoïste, irresponsable, violent d'une certaine façon.
Et quand vous découvrez ça à 17 ans, ça vous parle, ce genre d'amitié ?
Ça me parle parce que pendant longtemps, je crois que j'ai vécu ce genre d'amitié qui reste, mais c'est assez agréable quand on est adolescent, je trouve, de se reconnaître dans un ami comme un double. Et c'est agréable un temps parce que cette fusion, elle crée des moments passionnés, radicaux. Je crois que c'est bon d'avoir toujours en soi cette soif de vérité profonde, de transcendance, je résume ça comme ça, mais ça, c'est un truc qui est... Je sais pas si on peut vivre autrement, peut-être certains oui, mais...
Il y a plein de gens qui vivent autrement.
Je sais pas. Je pense que tout le monde, quand même, chacun à sa manière, a conscience que le réel est plus profond qu'il n'y paraît. Vous trouvez pas, vous, que... Il y a une intensité qui affleure parfois dans ce monde, et on va la chercher dans plein de choses. Certains vont la chercher dans la fête.
Je trouve, je pense pas que tout le monde a envie de se donner rendez-vous avec l'intensité. Je pense qu'il y a des gens qui s'en gardent.
Ah, peut-être pas avec l'intensité, mais je suis persuadé
que
tout le monde le ressent. Et chacun le vit à sa manière, parce que vous dites qu'il s'en garde. Mais qu'il s'en garde, c'est-à-dire qu'il en a peur. Si elle en a peur, c'est qu'il le ressent.
Oui.
Donc peut-être qu'il veut pas y aller. Peut-être qu'il ne veut pas faire trembler ce voile du quotidien. Et peut-être qu'il y a mille façons plus voluptueuses que celles des romanciers, qui nous sont, à vous ou à moi, étrangères, de percer ce mystère de la vie, parce qu'on pense, nous, qu'elle est dans une forme d'intensité, et peut-être que nous, on est finalement plus petits que ceux qui la trouvent dans autre chose que dans les mots, et qui font de ce quotidien, de cette simplicité, une profondeur. Je pense au bout du compte qu'on cherche à peu près les mêmes choses. La vérité, l'amour. Peut-être ça se résume à ça. Et que chacun le fait à sa façon.
Ça, c'est sûr.
Et Dean Moriarty le fait d'une façon adolescente. Alors quand je découvre ça adolescent, comme si la vérité se trouvait que dans l'intensité. Alors je suis heureux que la vie a pris le contraire avec le temps. Mais pendant longtemps, j'étais assez convaincu de cette radicalité et forme de vie qui est en fait très adolescente, mais nécessaire à un moment pour questionner l'ordre établi. Il y a un âge où pour questionner l'ordre établi, il faut s'en arracher, peut-être pour y revenir ensuite. Mais... Et donc j'ai un ami, que j'ai toujours, avec qui à 18 ans... On a fait le tour d'Europe parce qu'il était prêt à avoir le permis. On avait un Ford Escort Break et on dormait dans le coffre. Et l'Europe était plus sûre qu'aujourd'hui. Et on se sentait très libre et on n'avait pas de smartphone à l'époque. Et je me souviens juste de ces voyages où quand on était loin, au milieu de la République tchèque, au dormir dans la forêt polonaise en panne, on était vraiment en panne dans la forêt polonaise. Et on était perdu. Et la vertu d'être perdu, elle est immense.
On lit la fin.
La fin. Ainsi, Dean ne put pas nous accompagner dans le centre. Et il ne me restait qu'à m'installer dans le fond de la Cadillac et à lui faire des gestes d'adieu. Le bouc au volant ne voulait rien savoir de Dean, lui non plus. Dean, déguenillé dans son manteau mité, qu'il avait spécialement emporté en prévision des températures glaciales de l'Est, s'en alla tout seul, à pied. Et au dernier moment où je le vis, il tournait le coin de la 7e avenue, regardant la rue droit devant lui, et repartait à l'attaque. La pauvre petite Laura, ma chérie, à laquelle j'avais tout dit sur Dean, se mit presque à pleurer. Oh, on n'aurait pas dû le laisser partir ainsi. Qu'est-ce qu'on va faire ? Le vieux Dean est parti, me dis-je, et à voix haute, tout ira bien. Et on partit pour ce concert triste et déplaisant, où j'allais à contre-cœur. Et tout le temps, je pensais à Dean. Je pensais qu'il avait repris le train et se tapait plus de 3000 miles à travers cet horrible pays et ne savait d'ailleurs pas pourquoi il était venu, sinon pour me voir. Ainsi donc, en Amérique, quand le soleil descend et que je suis assis près du fleuve sur le vieux quai démoli, contemplant au loin, très loin, le ciel au-dessus du New Jersey, et que je sens tout ce pays brut rouler en bloc son étonnante panse géante jusqu'à la côte ouest, et toute cette route qui y va, tous ces gens qui rêvent dans son immensité. Et dans l'Iowa, je le sais, les enfants à présent doivent être en train de pleurer dans ce pays où on laisse les enfants pleurer. Et cette nuit, les étoiles seront en route. Et ne savez-vous pas que Dieu, c'est le grand ours, et l'homme orchestre, et l'étoile du berger doit être en train de décliner et de répandre ses pâles rayons sur la prairie, elle qui vient juste avant la nuit complète, qui bénit la terre, obscurcit tous les fleuves, décapite les pics et drape l'ultime rivage. Et personne, personne ne sait ce qui va arriver à qui que ce soit. N'étaient les mornes misères de l'âge qu'on prend. Alors, je pense à Dean Moriarty. Je pense même au vieux Dean Moriarty, le père que nous n'avons jamais trouvé. Je pense à Dean Moriarty.
C'est beau. C'est calme.
C'est calme.
Ouais, c'est calme, non ?
Ouais, c'est calme.
On va vers un autre livre.
D'accord. Apollinaire.
Bon, j'en étais sûre.
Ouais.
Ouais, je me disais qu'il fallait aller vers ça.
Ah oui.
C'est le recueil Alcool.
Alcool d'Apollinaire, ouais.
On parlait de corner les pages, mais la page du titre est corner.
Non, mais là, c'est le plus, là. Là, ouais. Non, je me dis que. À chaque fois que je le lis, je me dis quand même c'est fou parce que c'est une langue extrêmement moderne, je trouve. Pour moi, c'est vraiment le. Un recueil qui a fait basculer ma manière d'écrire. Et avant, la poésie que je lisais et que j'aimais, c'était la poésie baudelairienne, rimbaldienne, qui avait une forme plus littéraire, on va dire, plus écrite. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Mais... Et quand j'ai découvert cet Alcool d'Apollinaire, qui a pourtant plus de 100 ans, hein, c'est fou.
113, ouais. Ouais.
Je me suis... Je sais pas, en fait, j'ai l'impression que c'est un livre dont la langue est d'une modernité absolue. Peut-être parce que c'est lui qui a fait basculer la manière d'écrire aussi de plein d'autres. Bon, après, il y a aussi ce qui crée ça, je crois, c'est ce coup de génie de la dernière minute où, juste avant de publier le recueil sur les dernières épreuves, il décide d'enlever toute la ponctuation. Et donc, il n'y a pas de point, il n'y a pas de point d'exclamation, il n'y a pas de point d'interrogation. L'expressivité n'est que dans les mots eux-mêmes. Je trouve que ça donne une immense ouverture à la fois graphique et à la fois
de penser
à l'imaginaire. Ouais, ce qui me touche tant dans la poésie, c'est qu'elle, je trouve qu'elle est toujours un poème, c'est toujours une terre d'accueil. Je trouve que c'est toujours un espace qui est une invitation pour qu'on se nourrisse soi. Donc ça doit être assez précis et en même temps assez ouvert pour activer en nous des images, des zones de pensée, des formes. C'est une invitation. C'est un espace que vous devez remplir. Et c'est le jeu.
Vous voulez lire zone ?
Je vais lire un bout de zone, ouais.
Ouais.
Ouais, c'est pas mal. Mais celui-là, je vais pas lire en entier, mais ça, c'est un passage extrêmement connu. À la fin, tu es lasse de ce monde ancien. Bergère, haute tour Eiffel, le troupeau des ponts belles ce matin. Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine. Ici, même les automobiles ont l'air d'être anciennes. La religion seule est restée toute neuve, la religion. Est resté simple comme les hangars de port aviation. Je sais pas, cette phrase est dingue. À la fin, tu es lasse de ce monde ancien. C'est la première phrase du recueil. Et pourtant, on parle de quelqu'un qui est d'une érudition folle. Hein. Je trouve que c'est une prouesse encore plus grande
Pourquoi ? Parce qu'elle vous paraît très simple, cette phrase. À la fin, tu es lasse du monde ancien.
Elle me paraît à la fois très simple et aussi... comment dire ? Je trouve ça chez René Char, parfois. Pour changer quelque chose, je veux dire, l'aventure de chaque être humain est tellement secrète. Les drames et les joies que chacun vit sont tellement cachés, en fait, à l'autre, que parfois, en pressant une phrase assez simple, tout ce qu'elle recèle d'événements dans la vie d'un homme. On est des montagnes, donc pour incliner, pour faire une rotation d'un degré dans nos vies, un changement de caractère d'un degré, on était mélancolique et on essaye de l'être un peu moins. On est plein de colère et on essaye de réagir différemment dans la vie. Personne peut-être ne s'en rendra compte de ce qu'on traverse et de comment on va réussir à changer infiniment. Mais pour nous, c'est l'aventure d'une vie et c'est comme faire cette rotation de la montagne. Je pense qu'un degré de la montagne, s'il n'y avait pas les tremblements de terre et toutes les conséquences, on ne s'en rendrait pas compte. Mais cette montagne qui est tellement lourde d'elle-même, comme on l'est tous, pour elle, c'est un triomphe. Et je ne sais pas comment ça se fait, certaines phrases. À la fin, tu es las de ce monde ancien. C'est le mystère des formules magiques des grands poètes. Mmh. On sent qu'il nous parle à nous, mais qu'il se parle à lui. Et que cette phrase, elle est juste... L'affleurement, elle est juste la face découverte d'un monde englouti et profond qui est le sien et qu'il a traversé. Et pour maintenant mieux connaître Apollinaire, en plus. Je trouve ça encore plus beau quand on arrive à devenir neuf alors qu'on est chargé du passé. Alors qu'on est chargé des codes du passé, des regards du passé. C'est hyper difficile de changer, de s'arracher d'un monde... d'une tradition, d'une forme, alors même qu'on avait pleinement imprégné.
Vous lisez un autre poème ?
Ouais. Un grand poète de l'amour aussi. Celui-là, je l'adore, mais il est empreint de mystique, de voyage. Il s'appelle La Tzigane. La Tzigane savait d'avance nos deux vies barrées par les nuits. Nous lui dîmes adieu et puis, de ce puits sortit l'espérance. L'amour lourd comme un ours privé dansa debout quand nous voulûmes, et l'oiseau bleu perdit ses plumes et les mendiants leur avaient. On sait très bien que l'on se dame, mais l'espoir d'aimer en chemin nous fait penser main dans la main à ce qu'a prédit la Tzigane.
C'est presque une chanson.
Ouais, c'est presque une chanson, ouais. Je trouve ça beaucoup plus léger de penser qu'on a fait du nouveau quand on sait pas d'où on part. C'est plus facile, c'est plus léger. Quand on n'a pas connaissance du métier dans lequel on met les pieds. Ce qui est beau chez Apollinaire, je trouve qu'il charrie avec lui
toute une tradition
de poésie, de littérature, avec respect, mais aussi avec insolence, et avec liberté.
Un dernier ?
J'hésite entre deux, il y en a un qui est... Je vais vous faire une petite confidence, mais... Vous savez, quand on parle d'émoi esthétique, comme ça, des gens qui pleurent devant une œuvre, ou... des gens qui pleurent devant des paysages immenses, je trouve ça très touchant. Et en fait, dans ma vie, je trouve ça fort, mais ça m'était jamais arrivé. Jusqu'à ce jour où j'ai lu L'Ermite.
Il est là, je l'ai vu passer.
C'est un poème très étrange, vous allez voir. Imaginez que vous avez consacré votre vie... à un dieu, quel qu'il soit, à l'argent, à la matière, à l'amour, au ciel, toute votre vie, hein, un ermite, vous avez tout sacrifié à ce totem, ce dieu, et un jour vous dites mais peut-être c'est pas ça, c'est la tragédie. Quoi.
On vous écoute.
Ok, je lis. Après je vous le décrypte un petit peu. Un ermite déchaud près d'un crâne blanchi cria, je vous maudis, martyrs et détresses. Trop de tentations malgré moi me caressent. Tentations de lune et de logomachie. Trop d'étoiles s'enfuient quand je dis mes prières. Ô chef de morte, ô vieil ivoire, orbite, trou. des narines rongées, j'ai faim, mes cris s'enrouent. Voici donc pour mon jeûne un morceau de gruyère. Ô Seigneur, flagellez les nuées du coucher, qui vous tendent au ciel de si jolis culs roses, et c'est le soir, les fleurs de jour déjà se closent, et les souris dans l'ombre incantent le plancher. Ça aussi, c'est un truc qui me plaît beaucoup, la poésie, c'est quand parfois, c'est quand elle est codée. C'est quand il faut y revenir pour comprendre les images. Qu'elle est un peu cryptique. Et parce que comme ça, on passe parfois sur le sens, mais le son et la forme vous suffisent, comme dans une chanson. Et la danse, ça, c'est beau, parce que juste la phrase est belle. Un ermite déchaud près d'un crâne blanchi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un ermite qui a plus de chaussures. C'est-à-dire que là, il est en train de déserter là, le coco. Là. L'ermite va s'en aller, près d'un crâne blanchi. Donc là, on est dans une... C'est Hamlet. En fait, il parle à une tête de mort. Mm-hmm. Donc une image de vanité. Cria, je vous maudis, martyr des détresses, trop de tentations malgré moi me caressent. Il est en lutte, là, il est en lutte. Il vient d'enlever ses chaussures d'ermite. Est-ce qu'il va être défroqué? Il va retrouver le monde et ses tentations. Il va blasphémer, là. Tentation de lune et de logomachie. Trop d'étoiles s'enfuient quand je dis mes prières. Il est en colère, il croit plus. Et là, il dit, cette phrase est un peu compliquée, mais si on sait qu'il est en train de parler au crâne, comme Hamlet. Ô chef de morte, chef tête, ô tête de morte, ô vieil ivoire, orbite, trou. Des narines rongées, j'ai faim, mes cris s'enrouent. Voici donc pour mon jeûne un morceau de gruyère. Qu'est-ce qu'il a pour son jeûne? C'est quoi le morceau de gruyère?
C'est le crâne.
Cette tête de mort avec tous ses trous. Et là, il commence à blasphémer. Ô Seigneur, flagellez les nuées du coucher qui vous tendent au ciel de si jolies culs roses. Voilà, dans les nuages, il voit des fesses. Et il commence à être dans ce truc-là de tentation physique de la chair. Et c'est le soir, les fleurs de jour déjà se closent. Même les fleurs, ça lui fait mal. Parce qu'il il s'est même éloigné des fleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Et les souris dans l'ombre incantent le plancher. Putain, mais ça, c'est des trouvailles, ça. C'est, en tant que poète, auteur, c'est ce genre de trouvailles qui rend dingue. Les souris dans l'ombre incantent le plancher. Juste ça. Le fait d'avoir trouvé, ça incantait le plancher. Mmh. Et là, on a l'image, on a tout. On entend les souris dans le plancher. Sauf qu'il dit pas... les souris font du bruit. Elles incantent le plancher. Et lui, il est en train de faire des prières, et les souris incantent le plancher. Ah, c'est de la précision. C'est une horlogerie, quand même. Il y a cette idée que c'est beau parce que c'est sourouagé par un autre. J'arrête. Allez, plus simple, plus court. Le plâtrier siffleur de Christian Bobin, un auteur contemporain qui nous a quitté il y a peu, que j'ai découvert avant le premier confinement, enfin au moment du confinement après, par hasard, sur un étal de librairie. C'est un tout petit livre jaune de 15 pages, et pareil, j'avais entendu son nom, c'est un auteur poète lui aussi, qui s'appelle Yann Allégret, qui m'avait parlé de Bobin. Et paf, je tombe là-dessus deux jours plus tard, et c'est le hasard, on y va. Et j'ai commencé à lire ça. C'est un tout petit essai, mais qui est une œuvre en elle-même, je trouve, sur ce que c'est qu'habiter poétiquement le monde. Et la première page, j'ai trouvé dans le vagabondage d'une lecture de Ernst Jünger un passage où il relate un séjour en Sardaigne. Il découvre une grotte de bergers au bord de l'eau et entre dans cette grotte plus que sommaire. Il y a un feu mal éteint. Les braises sont encore rougeoyantes. Dans un repli de la pierre, il y a une poignée de sel qui a été prise de la mer toute proche. Et dans un autre creux, une poignée de fèves. Il est devant les débris, les miettes divines d'un repas très frugal. Et il a cette considération que je trouve très belle. Cette grotte n'est pas dans des temps que nous aurions dépassés à jamais. elle est devant nous. Non pas que nous soyons tous appelés à vivre dans des cavernes. Cette demeure du berger, cette frugalité, cette sorte de radicalité, veiller à la nourriture la plus élémentaire, veiller sur le feu, avoir non loin la rumeur de la mer et des étoiles, cette intensité presque muette de la vie, où la nécessité et la beauté ne font plus qu'un, est quelque chose qui nous manque. Et c'est peut-être ce lien entre la beauté, la simplicité et la frugalité qui va nous ouvrir à l'avenir.
C'est un beau programme.
Très beau programme. Hein. C'est marrant parce que quand je l'ai découvert, j'y croyais plus qu'aujourd'hui.
À la frugalité ?
À ce programme. Que j'espère. Mais ça me paraissait plus jouable qu'aujourd'hui. C'était il y a 4 ans seulement. Et il y a ce truc un peu paradoxal, je trouve, c'est quand on est sorti du confinement, on avait vécu un truc terrible et il y avait une page vierge un peu. On se disait, quelque chose a changé, on va pouvoir vivre différemment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le contraire. On l'a juste réaccéléré pour rattraper le temps perdu dans ce monde ultra libéral, quoi. Qu'on vit malgré nous. Puis on sent qu'il n'y a pas trop d'autres voies. C'est devenu tellement violent qu'il y a un peu ce truc de je roule pour ma pomme, quoi. Le monde est tellement violent que c'est. Je dois protéger mes gosses et ma prairie. Je suis un cow-boy. Sinon, le monde tourne, tu vois ce que je veux dire? Et c'est un peu triste. Donc, on essaye de préserver le lien, de faire vivre ce qui nous unit. Et c'est vrai qu'être musicien, dans ce monde où on se sent démuni et faible, c'est une chance pour ça. Parce qu'on se dit, ah, quand même, là, quand j'étais là, et qu'il y avait toutes ces personnes, et qu'on était en train de vivre un moment de joie ensemble, et on ne se ressemble pas tous, et on n'a pas le même âge. C'est concret, quoi. C'est concret qu'on peut passer des moments ensemble. Soit des moments de partage, de paix, quoi, de paix, de simplicité. Mais j'avoue qu'en relisant ça aujourd'hui, ça me fait un peu mal. Parce que quand je l'ai lu à l'époque, je me disais « oui, oui, je vais y arriver ». Et là, je me le dis un peu.
Ce serait quoi dans la trinité de la fin? À quoi vous renonceriez?
Non, je veux renoncer
quoi,
à rien.
Il dit beauté, frugalité et...
Simplicité.
Et simplicité. Moi, je signe encore. Hein.
Moi, ma chine. Non, non, je veux y croire. C'est en moi, j'ai moins confiance en moi. J'ai l'impression d'être de plus en plus prisonnier d'un monde qui court. Et je crois que c'est pour ça que ce texte me touche autant. C'est que l'espoir de cette vie de calme, de simplicité et de frugalité, bah c'est déjà l'avant-goût de cette vie. Et donc croire, c'est important. Renoncer, c'est ce qui est le pire. À partir du moment où on se résigne à penser que le monde ne peut pas être plus que ce qu'il est déjà, évidemment qu'il ne sera pas plus que ce qu'il est déjà. Parce que les choses qu'on espère prennent déjà racine. Mmh. Les formuler, les inventer, c'est déjà leur donner une forme dans ce monde. Donc, une infime chance, au moins, qu'elles arrivent.
Et elles arrivent déjà quand on les pense et quand on les imagine.
Exact. Donc là, quand on lit ça, au moins pendant un instant, on était dans la caverne, caressé par la complainte des vagues et le sentiment des étoiles. Et j'ai senti cette sérénité, ce calme immense, cette plénitude. On rêve de cette plénitude, non?
Et c'est moi qui vais dire au texte d'après, Arthur Teboul.
Bien sûr, bien sûr.
Roberto Bolaño.
Oui, ce qui est en commun un peu avec tout ce que j'ai lu, ce que je vous ai lu et ce que j'ai choisi, j'ai l'impression quand même c'est un désir fort de faire vibrer le réel, une recherche de ce qui est sous la surface de ce monde. On l'a dans Sur la route, on l'a chez Bobin aussi. Dans tout ce que je vous ai lu, il y a ce moment de tension. Donc c'est un peu un paradoxe, parce que pour chercher la paix, il faut s'arrêter. Et à la fin de Sur la route, c'est calme.
Ouais, c'est calme.
Le calme, c'est halte, en fait, avant de reprendre le chemin. Et les détectives sauvages, c'est encore une quête initiatique. C'est encore aussi littérature qui mêle le réel et le fantastique. Alors sur la route, on trouve ça. Ce désir de transcendance et pour faire vibrer le réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'il y a mille façons de le vivre, ce réel. Et qu'une des manières de le raconter, c'est d'accepter que il est bien plus invraisemblable, surprenant, enchanté, absurde, ce réel, que parfois on se laisse imaginer, quoi. Il est plus vaste. Et Détective Sauvage, ce qui me touche aussi, c'est encore un truc d'adolescence. Parce que le narrateur, au début, il rejoint un groupuscule poétique, littérature. J'aime bien quand j'étais jeune, je rêvais de ça, des mouvements, faire partie d'un mouvement, force de la jeunesse, de se dire qu'ensemble on peut changer le monde, et on peut. Mais il y a toujours dans les mouvements des problèmes, parce qu'il y a des chefs, parce qu'il y a des idéologies. Et on avait chez Brassens, chez Kerouac, chez Bobin, chez Bolaño. Ce qui me touche aussi, c'est que souvent les auteurs sont des électrons libres. Parfois vont pénétrer un monde, pénétrer un groupuscule, avec ce que ça signifie d'oubli de sa libre pensée. Et les auteurs ne peuvent pas accepter ça, parce qu'à un moment, ils doivent se rappeler à cet esprit critique, cette liberté. Et qui, le début est assez comique, parce qu'il rejoint le club de poésie des réels viscéralistes, qu'on pouvait aussi appeler les viscéréalistes, ou même les viscéréalistes, mais avec un C et pas un S. Et c'est des petits groupes qui s'écharpent. Sur, voilà, j'aime bien ces...
Vous nous lisez un extrait.
Ouais, je vais lire le début, c'est marrant. 2 novembre. J'ai été cordialement invité à faire partie du réalisme viscéral. Évidemment, j'ai accepté. Il n'y a pas eu de cérémonie d'initiation. C'est mieux comme ça. 3 novembre. Je ne sais pas très bien en quoi consiste le réalisme viscéral. J'ai 17 ans. Je m'appelle Juan García Madero. Je suis en premier semestre du cursus de droit. Je voulais faire des études de lettres, pas de droit, mais mon oncle a insisté et au bout du compte, j'ai fini par m'incliner. Je suis orphelin. Je serai avocat. C'est ce que j'ai dit à mon oncle et à ma tante et ensuite je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai pleuré toute la nuit. Ou du moins une bonne partie. Puis, avec une résignation de façade, j'ai fait mon entrée glorieuse à la faculté de droit. Mais au bout d'un mois, je me suis inscrit à l'atelier de poésie de Julio César Alamo, à la faculté de philosophie et de lettres. Et c'est comme ça que j'ai connu les réals viscéralistes, ou les viscéralistes, ou même viscéréalistes, comme ils aiment parfois s'appeler. Jusque-là, j'avais assisté 4 fois à l'atelier, et il ne s'était jamais rien passé, ce qui est une façon de parler, car tout bien considéré, il se passait toujours quelque chose. Nous lisions des poèmes, et Alamo, selon l'humeur du jour, les portait au nu ou les mettait en pièces. Quelqu'un lisait, Alamo critiquait. Quelqu'un d'autre lisait, Alamo critiquait. Un autre encore reprenait la lecture, Alamo critiquait. Quelquefois, Alamo s'ennuyait et nous demandait, à nous qui ne lisions pas à ce moment-là, de critiquer aussi. Et alors nous critiquions, et Alamo se mettait à lire le journal. La méthode était parfaite pour que personne ne soit l'ami de personne, ou pour que les amitiés se scellent dans la maladie et la rancune. D'un autre côté, je ne peux pas dire qu'Alamo était un bon critique, même s'il parlait sans cesse de la critique. Maintenant, je crois qu'il parlait pour parler. Il savait ce qu'était une périphrase, pas très bien, mais il le savait. Il ne savait pas cependant ce qu'était un pentamètre, qui est, comme tout le monde le sait, un système de 5 pieds dans la métrique classique. Il ne savait pas non plus ce qu'était un vers nicarquien, qui est un vers qui ressemble au vers phallécien, ni ce qu'était un tétrastiche, qui est une strophe de 4 vers. Comment j'ai su qu'il ne le savait pas? Parce que j'ai commis l'erreur le premier jour de l'atelier de le lui demander. Je ne sais pas à quoi je pouvais penser. Le seul poète mexicain qui sache par cœur ce genre de choses est Octavio Paz, notre grand ennemi. Les autres n'ont même pas une idée. C'est du moins ce que m'a dit Ulysses Lima. Quelques minutes après que j'ai rallié les rangs du réalisme viscéral et y ai été amicalement accepté. Le fait de poser ces questions à Alamo a été, comme je n'ai pas tardé à le vérifier, une preuve de mon manque de tact. Au début, j'ai imaginé qu'il y avait de l'admiration dans le sourire qu'il m'a adressé. Ensuite, j'ai compris que c'était plutôt du mépris. Les poètes mexicains, les poètes en général, je suppose, détestent qu'on leur rappelle leur ignorance. Mais moi, je ne me suis pas démonté et comme il venait de mettre en pièces 2 de mes poèmes au cours de la 2e séance à laquelle j'assistais, je lui ai demandé s'il savait ce qu'était un rispetto. Alamo a pensé que j'exigeais du respect pour mes poèmes, et il s'est lancé dans un discours sur la critique objective, pour changer, qui est un champ de mine par où doit passer tout jeune poète, etc. Mais je ne l'ai pas laissé poursuivre, et après lui avoir bien expliqué que jamais, au cours de ma courte vie, je n'avais sollicité de respect pour mes pauvres créations, j'ai reposé la question cette fois-ci, en essayant d'articuler avec la plus grande clarté possible. « Ne me fais pas chier avec tes conneries », a dit Alamo.
C'est bien qu'on termine cette bibliothèque sur un réalisme viscéral. Merci beaucoup Arthur Teboul d'avoir ouvert votre bibliothèque au Book Club.
Et merci pour l'invitation.
labyrinthe, le temps d'une vie. Cueillis raisins de Corinthe, épêche, rubis, marcher, courir nous éreinte. Là, restons assis au milieu du labyrinthe, sans chercher d'issue. Tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle, celle d'une autre. Tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle d'une autre. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines, les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe.
Merci beaucoup, au revoir, bonne soirée.
Je voulais qu'on fasse ça où?
Là, là, en descendant.
Ah, en descendant,
c'est que c'est
là.
Ouais, carrément. Pour retrouver toutes les références des textes, allez en avant. Évoqué par Arthur Teboul. Rendez-vous sur la page du bookclubfranceculture.fr. C'est aussi sur cette page que vous trouverez tous nos portraits de bibliothèque. Actuellement en train de faire attention à ses pieds dans les escaliers et à la prise de son chez Arthur Teboul, c'est Grégory Wallon. À la réalisation de cet épisode, c'est Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club qui m'aide à préparer et penser ces émissions, et particulièrement aujourd'hui à Louise Hott.
Le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines, les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Laisse-moi aller, car le jour se lève, laisse-moi décorer le labyrinthe. Tu crois que tu vis, mais c'est ainsi qu'on meurt. Du piège où tu es pris, tu fais une demain. Laisse-moi aller, car le jour se lève, laisse-moi décorer le labyrinthe. Le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines ou les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe.